Alors, est-ce que toi, tu es dans une des classes de 4e qui a participé à ce projet?
Oui, c'était un peu... En fait, c'était différent des autres projets qu'on peut faire. Parce que c'était plus du dessin, mais en fait, ça ne demande pas forcément un talent.
Tu penses qu'il ne faut pas de talent pour faire ce que vous avez fait?
Bah, pas forcément, parce qu'on peut interpréter ça un peu comme on veut. Et on n'est pas obligé de suivre vraiment des règles.
J'ai vraiment adoré, j'espère qu'on refera des projets comme ça, parce que ça change, on travaille, mais en même temps c'est ludique.
Qu'est-ce que tu trouves ludique là-dedans?
Le fait qu'on dessine, qu'on interagit avec un éditeur.
Est-ce que tu connaissais le travail d'éditeur, toi?
Ouais, j'en avais déjà entendu parler, mais je ne savais pas vraiment à quoi ça représentait exactement.
Et du coup, inventer des histoires, c'est quelque chose qui te plaît, que tu aurais envie de faire dans ta vie?
Oui, ça me plaît beaucoup, parce que même, je me souviens, quand j'étais petite, j'avais déjà essayé d'inventer une histoire, même si c'était juste que pour moi. Mais je pense pas que je ferais ça dans ma vie. Mais c'est un très bon métier.
Bah, faut faire des planches pour pouvoir dessiner dedans. Bah, en fait, c'est aussi un peu de la proportion, mais c'est plutôt bien.
Et est-ce que ça marche quand on sait pas dessiner?
Oui, ça marche. En fait, on avait lu le livre, on avait travaillé dessus, fait des évaluations en classe. Et du coup, bah, on avait fait un projet là-dessus, mais on connaissait déjà le sujet. Du coup, en fait, ça nous a aidés. On a écrit l'histoire pour ensuite le mettre en BD.
Et comment c'est le travail de BD? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît?
Bah, c'est assez intéressant, mais c'est pas forcément un truc que je... Je ferai toujours, mais ça me dirait bien de refaire.
Alors c'est Hugues, François, hein, le président de la FCPE, qui nous a contactés. Comme c'est quelqu'un qui aime beaucoup le monde de la BD, il est particulièrement sensible à cet art-là et je pense qu'il avait à cœur de l'étendre chez les collégiens. Nous, c'est vrai que ça sort un petit peu des sentiers battus, des classiques, de notre façon de travailler. Et donc, on s'est rencontrés. Il connaissait Gauthier Ducaté des éditions de Uchiguchi par ailleurs. Et Gauthier était intéressé aussi sur le fait de travailler avec des enfants. Donc, on s'est tous rencontrés. On a fait plusieurs réunions de préparation. Et le projet est né comme ça.
Alors, quelle a été la réception des élèves? Comment ça s'est passé dans les séances de travail avec vous?
Alors au, tout début, oui, alors au tout début, ils n'étaient pas très très motivés parce qu'ils se disaient mais c'est noté ou pas. Et on leur a dit non, ça n'est pas noté. Et du coup, en tant qu'élèves, ils ne comprennent pas quand ça ne mène pas à quelque chose. Et on leur a dit au contraire, c'est de la culture, c'est du vivre ensemble, c'est travailler sur d'une autre façon avec d'autres personnes. C'est aussi se mettre en lien avec la médiathèque, un lieu où certains ne vont jamais. Et au début, ils étaient un petit peu réticents. Et puis après, c'est parti, ils ont bien compris. Et ça leur fait du bien, ça les a mis pour certains en plus en posture de réussite. Parce que comme ce n'est pas un travail scolaire habituel, ça les a motivés.
En fait, on a travaillé sur les heures de cours. On avait regroupé certaines heures de cours pour pouvoir faire ce projet. Et on avait pas mal d'heures, un peu une vingtaine d'heures, pour faire le travail. On a eu le temps de finir le travail. On a même rajouté un peu d'heures pour terminer et peaufiner. Et ça rend bien parce qu'on s'est tous investis.
C'était un peu stressant. Un peu.
Bah, c'était valorisant aussi que ça nous dise bah, vous allez faire tel projet et pas d'autres classes. C'était valorisant, c'était cool. Moi, j'avais déjà un premier aperçu de mes restes misérables. Mais après, j'ai bien aimé le relire encore et du coup, pouvoir dessiner aussi. C'était assez cool d'avoir quand même 21 heures de travail avec la classe. Il y a eu des rires, c'était trop bien de pouvoir tous partager nos bandes dessinées. À partir de la bande initiale, et ben on a dû faire d'autres bandes imaginatives.
Bah, moi je dis que c'est un peu stressant parce que bah, t'as pas l'habitude de parler dans plusieurs personnes. Et voilà.
C'était stressant de faire la visite?
Ouais, non, surtout de parler.
Et le faire aussi, il y avait la pression tout le temps à dire les parents. Voir si ça allait juger ou pas, un orage de test.
Voilà, et de travailler des compétences différemment, parce que mine de rien, dans les bulles, il y a des paroles, il a fallu travailler la ponctuation, il fallait trouver le message important et ne pas faire une bulle trop grosse pour gâcher le dessin. Donc si, il y a vraiment eu un travail, ça les a fait travailler autrement, ça a mis en réussite des élèves qui avaient peu confiance en eux. Et non, franchement, c'est très bien.
Moi j'ai fait l'histoire des Thénardier, que c'était une famille dessoudée et qui du coup s'est ressoudée d'un coup grâce à leurs filles qui sont parties d'un côté, ça leur a fait peur, donc ils ont décidé de fermer l'auberge et se réunir tous ensemble.
Et du coup, de votre point de vue à vous d'enseignante dans l'éducation nationale en collège, est-ce que ce type de projet sont faciles à monter? Est-ce que vous aimeriez repartir sur ce type de projet avec peut-être d'autres idées ou pas?
Alors, c'est très difficile à monter. Parce que là, on avait besoin de 3 heures d'atelier. Gauthier venant de 10. Et puis, pour le coup aussi, il fallait qu'on mette deux classes de quatrième le même jour, qu'on se mette en barrette avec le prof d'art plastique. Donc, heureusement que mon principal et mon principal adjoint ont joué le jeu. C'est-à-dire que c'est grâce à eux qu'on a pu le faire, parce que s'ils ne nous avaient pas fait un emploi du temps à la carte pour le projet, c'était pas possible. Parce que nous, on les a 4 heures dans la semaine, mais 4 heures perlées les différents jours. Et du coup, là, ça nous a permis de concentrer et de pouvoir travailler comme ça. Mais non, c'est pas évident.
Et est-ce que vous êtes testé au scénario, à la BD? Vous avez essayé?
Alors non, moi, j'ai plutôt fait la partie orthographe, trouver les mots, aider les enfants à rédiger. Plus ça. J'avoue que j'ai pas beaucoup de talent en BD.
Je suis aussi auteur de BD, je me destinais à être auteur, et puis en 2002 on a fait des fanzines en fait avec des copains, et il y en avait un qui avait plus, je sais pas, l'esprit d'organisation pour mettre des deadlines, des dates limites de rendu, aller voir les libraires aussi pour proposer des bouquins et tout ça, c'était moi. Donc finalement, ma carrière d'auteur, elle a pris une tangente, elle a pris du retard aussi, parce que je m'occupe énormément des travaux des autres, et beaucoup moins de ma carrière d'auteur. Et en plus de ça, j'ai fait beaucoup de bandes dessinées expérimentales, ce qui ne se prête pas nécessairement à des travaux en publication, mais voilà, ça m'arrive aussi de faire des dessins plus en mode performance, donc autour de la BD expérimentale. Et puis Zoo Chikuchi, c'est une maison d'édition donc, associative, non asso. J'en suis le salarié, donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de décisions qui m'échoient, mais en fait on est quand même un groupe bossé sur les bouquins. J'ai vu qu'il y avait Audrey qui est arrivée, qui est membre de Zoo Chikuchi, qui a participé en fait à la maquette donc de Une bonne rentrée. Donc alors ça c'est une avant-première, parce qu'officiellement Une bonne rentrée il sort demain. C'est le premier livre d'une autrice qui s'appelle Margot Soula, qui a 27 ans, Margot. Et donc ça montre aussi qu'au bout de 22 ans d'édition, en fait on continue à travailler avec des jeunes auteurs, à les aider à publier leur premier bouquin. Parce qu'à côté de ça, en fait, on a des auteurs aussi qui ont vraiment de la bouteille, notamment Imagex, dont on a publié une anthologie l'an dernier. Donc Imagex, c'est un auteur des années 80. Maintenant, il a 67 ans, donc il y a 40 ans d'écart entre Margot et Imagex. Voilà, et puis aussi, alors là, j'ai ramené des livres. Alors, Christopher Oettinger, qui est vraiment de ma génération, parce qu'on est de la même année, 1980. Là j'ai ramené un livre aussi de Baladi. Donc Baladi, les élèves ils en ont entendu parler, parce que à chaque fois que j'explique des trucs par rapport à la BD, je m'appuie sur Baladi. Et Baladi, en fait, c'est l'un des auteurs que j'admirais quand j'avais 20 ans. Et lui aussi fait de la bande dessinée expérimentale. D'ailleurs, je pense que s'il n'avait pas fait de la BD expérimentale, j'en aurais peut-être pas fait. On s'est rencontré sur des performances de BD. Et je suis devenu son éditeur après. Voilà.
Le micro est revenu. Il était séquestré là-haut. Et ben pour continuer, on va parler peut-être de la maison d'édition. Hein. On va continuer à en parler, mais moi j'avais envie de te questionner sur pourquoi animer des ateliers avec des jeunes. Comment ça t'est venu cette idée-là? Et puis là, il y a plein de jeunes collégiens, collégiennes du collège ici, qui ont participé à tes ateliers. Alors je me demande comment tu construis ça, pourquoi tu défends ça, comment ça t'est venu, quoi.
Alors, je vais évacuer tout de suite un facteur qui est essentiel, mais qui est pas le plus déterminant. En tout cas, être éditeur, c'est quand même un métier sacerdoce. Je travaille énormément et je suis très très mal payé. C'est vrai que les ateliers en fait me permettent de payer mon loyer, de payer mon salaire à la fin du mois. Mais à côté de ça, je pense que ça fait depuis 2008 que je fais des ateliers et que je n'aurais pas commencé en fait à faire des ateliers s'il n'y avait pas eu en fait déjà mon parcours à moi et en fait une notion assez forte d'éducation populaire qui est vraiment inscrite dans la génétique de Zouchi Kuchi. Donc déjà mon parcours à moi, c'est vrai que moi comme diplôme j'ai que le bac en fait. J'ai fait des études après mais j'ai pas eu d'autres diplômes. Et puis quand j'étais au collège, j'ai remporté un concours d'heures de colle en troisième. Donc c'est vous dire si j'étais un bon élève quoi. Mais néanmoins voilà, j'ai réussi à en faire autre chose, ces heures de colle m'ont beaucoup servi. Et puis quand je parlais aussi de l'éduc pop au sein de Uchi Kuchi, donc nous en fait on a une revue qui a duré de 2002 à 2015, Turkey Comics, et donc qui a fini par être une revue annuelle où on présentait des auteurs qui venaient de partout. Donc quand je dis partout en fait c'est qu'il y avait des auteurs néo-zélandais, australiens, chinois, coréens, libanais, sud-africains, c'était vraiment très international. Et à chaque fois, il y avait une couverture qui était imprimée, soit en gravure, soit en sérigraphie, qui sont des techniques d'impression artisanale. Et autant les rudiments de la sérigraphie, je les ai appris lors de mon passage aux Beaux-Arts, mais il y avait beaucoup. On apprenait des techniques par nous-mêmes et on se les enseignait les uns aux autres. Et ce facteur de transmission, en fait, qui passe pas par un cours classique, et par énormément de pratiques, d'essais, de tentatives, d'erreurs, moi je trouve que c'est vraiment important, quoi. D'ailleurs, les élèves, là, ils peuvent en témoigner, il y a eu beaucoup de tentatives d'erreurs, j'aurais demandé de refaire ce qu'ils ont fait. Et on voit le résultat aujourd'hui, quoi.
Alors, il y a peut-être des mots qu'on va expliciter, parce que l'éducation populaire, peut-être parmi vous, il y a plein de gens qui savent ce que c'est, mais peut-être les plus jeunes d'entre vous ne savent pas. Et que l'éducation populaire, c'est un peu ce qui est complémentaire de l'école, ce qui est complémentaire à ce qu'on appelle l'éducation non formelle, donc, c'est-à-dire des projets comme vous avez fait là, des projets culturels, des projets où on est obligé de collaborer, d'ouvrir son esprit, de faire des choses coopératives. C'est un peu ça, et en partant de vous en tant que personne. Et peut-être la sérigraphie, tu peux en redire deux mots, parce que je ne sais pas si tout le monde sait comment ça fonctionne. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que vu que c'est une technique d'impression artisanale, c'est quand même intéressant d'en dire quelques mots.
C'est un labeur. ces derniers temps, je passe énormément de temps à l'atelier de sérigraphie. Et il y a des moments en fait, où j'ai l'impression d'avoir acquis un truc et puis l'impression suivante, ça va pas et tout est remis en question, donc c'est très éprouvant, mais en même temps c'est génial. Et donc ce sont des écrans avec des toiles, on met une couche qui s'appelle une émulsion en fait, qui est réactive à la lumière, et en fait l'émulsion elle va boucher certains, donc la toile en fait elle fait, c'est des mailles comme ça qui s'entrecroisent, et il y a des pores en fait, entre les trous en fait au milieu de la toile, on appelle ça des pores. Et certains pores sont bouchés, donc ne laissent pas passer l'encre. Et par contre, d'autres pores ne sont pas bouchés, donc laissent passer l'encre. Donc on met un boudin d'encre en fait, sur l'écran. Et avec une racle, en fait, on vient appliquer l'encre qui va traverser les pores et qui va imprimer une image. Donc c'est une image qu'on peut imprimer à théoriquement plusieurs milliers d'exemplaires. Bon, après, la vérité, c'est que plusieurs milliers d'exemplaires, ça rend un peu zinzin. Moi, je me cantonne à... J'ai fait un tirage à 800 exemplaires... Cette année, c'était déjà pas mal.
On passe à un micro, c'est bien aussi. Non, il grésille un peu celui-là.
Oui, je me demandais si c'était un...
Non, c'est celui-là. Et du coup, est-ce que vous avez fait de la sérigraphie là avec les jeunes? Non, c'était vraiment le travail
de dessin. Et du coup, comment on s'y prend alors peut-être les jeunes, vous pouvez aussi témoigner, pour de A à Z partir d'une histoire existante et puis d'arriver à cette expo qu'on voit aujourd'hui avec un accompagnement. Mais du coup, comment on crée tout ça?
Alors, ça demande plusieurs compétences. Les compétences des professeurs, un coordinateur, donc la personne de Hugues, et puis donc moi, et puis bien sûr les élèves. Il y a eu un programme, en gros, on s'est mis d'accord au printemps dernier, donc 2023, sur le fait qu'on avait envie de travailler sur un roman. À l'époque, il y avait un peu une espèce de shortlist. Finalement, en fait, le livre qui a été choisi, c'était Les Misérables. C'est très intéressant, en fait, de travailler avec des adolescents qui sont en quatrième en 2024 sur Les Misérables. Bon, déjà parce que il y a tout plein de choses sociales, en fait, qui sont véhiculées par ce livre. Et puis, en fait, ça se passe au 19e siècle. Donc là, en fait, on va toucher à vraiment ce qui est la représentation en bande dessinée. Et c'est vrai que je pense que quand on a votre âge, en 2024, représenter le 19e siècle, savoir qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de choses comme ça, c'est pas une évidence pour tout le monde. Et donc il y a eu ce truc de s'adapter aussi à la période. Et puis, il y a le canevas du livre qui a été lu par la classe. Et puis après, la contrainte en fait que j'avais proposée, c'était que chaque élève constitue une histoire qui ne contredise pas en fait ce que Victor Hugo avait écrit dans son livre, donc qui soit plausible en fait, mais qui leur appartienne. Donc en gros, ils avaient une trame de base et ils ont brodé après par rapport à ça. Alors je ne sais pas si on a l'un ou l'une d'entre vous qui a envie de réagir par rapport à ça.
Nous raconter un peu. Vous dire un peu comment ça s'est passé. Tu es obligé de le faire dans le micro, hein, vu qu'on n'est pas très nombreux, nombreuses.
Sûr. Bah, en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que par exemple dans Les Misérables, il y a la figure de Jean Valjean qui est double. Jean Valjean, au début, c'est un bagnard. Et il n'a pas un mauvais fond, mais vu qu'il passe par le bagne, il s'endurcit, puis il fait le mal, quoi. Il commet des actions répréhensibles. Et puis, à un moment donné, en fait, il y a une sorte de rédemption. Il se rachète, il devient quelqu'un de généreux, socialement positif, et tout ça. Ce qui est assez marrant, c'est que, ça je comprends tout à fait, quand on est ado, en fait, il y a eu parmi les garçons, notamment les garçons qui étaient fascinés par le côté un peu bad boy de Jean Valjean. Donc on a des super planches de Jean Valjean au bagne, Jean Valjean qui pique des trucs et tout, quoi. Et puis après, il y a l'image un peu chevaleresque de Jean Valjean qui a été traitée différemment, quoi. Donc c'est bien aussi de pouvoir projeter ce truc d'ado aussi, ces fantasmes d'ado. Je pense qu'aussi il y a pas mal aussi de projections, de fantasmes par rapport à ce qu'on vit soi et comment ça peut se traduire en fait dans une figure romanesque, notamment comme Cosette, qui a une vie très dure et qui rêve d'être sauvée à un moment donné. Donc des fois ça touche vraiment au rêve. Notamment, on a une planche de Cosette en fait qui se met à rêver. En fait, elle parle avec, elle doit faire une course pour les Thénardier, elle rêve. Elle parle avec un monsieur en fait, puis le monsieur se transforme en cheval. Et en fait, Cosette, elle s'enfuit sur le cheval au galop. Ça, je trouve ça super, par exemple, comme résoudre ce problème de créer une histoire en fait et se dire ah, c'est pas trop plausible, mais j'ai trop envie de représenter un cheval et de montrer que le cheval c'est truc que j'aime, c'est avec la liberté et tout ça. Puis se dire, ah, en fait, si je passe par le canal du rêve, ça marche, quoi.
Oui, bah, du coup, j'aimerais ça me donner un peu envie de que vous me racontiez, mais bon, si ça vient, comment vous avez imaginé des choses qui ne se passent pas dans l'histoire, en se disant bah, tiens, voilà, y a un cheval qui va apparaître à un moment, et comment on arrive à le faire après, à en rendre pour que ça marche, que ça tienne dans une planche. C'est tout le travail du scénario qui est le travail des BDistes professionnels aussi, hein, mais d'arriver à se dire bah, tiens, il faut que ce soit synthétique, il faut qu'on comprenne bien l'enchaînement entre les planches. Il y a des gens qui font des formations pour faire ça. Et comment là, de son cerveau, on a une idée et on arrive alors à ce que ça devienne concrètement une planche. Alors je ne sais pas s'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui veut témoigner, raconter comment, de l'idée qu'il ou elle a eue, vous avez réussi à en faire ce qu'on a vu là. Vous n'êtes pas, toujours pas obligé. Hein.
Gauthier et moi, on va s'auto-animer, ça va être super.
je pense que pendant un temps, ils ont été ultra frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas dessiner. On a travaillé sur le synopsis, après on a fait des scénarios, puis après on a commencé à travailler sur le dessin. Et c'est vrai que ça montre aussi le travail de la bande dessinée. On a l'impression que c'est simple, hein. La BD, en fait, Armand, je sais que j'ai mis des années en fait à l'écrire, quoi. Puis en fait, ça se lit en quelques heures, quoi. Donc c'est vrai que le scénario, c'est quand même un gros travail, mais je pense qu'ils se sont aperçus aussi que le moment où le personnage prend vie, avant même le dessin, c'est quand on l'a dans la plume, en fait, quand on écrit un peu sa vie, quand on se projette aussi dans ses réactions, et surmonter le passage frustrant, en fait, le dessin devient beaucoup plus... libre et incarné.
Oui, parce que c'est là-dessus que toute l'histoire va tenir, et du coup j'imagine que c'est un peu comme quand on regarde une série ou quand on regarde un film, si le scénario est bancal, si ça s'enchaîne pas bien, ça tient pas, quoi. Et du coup, ben voilà, j'imagine que vous avez dû faire ce travail de tiens, j'ai envie de dire ça, comment je fais pour que ça marche. Et moi je me demandais, du coup, avec ta casquette d'éditeur, comment tu accompagnes les gens qui ont envie de publier des BD, qui eux sont peut-être professionnels, ou en tout cas ont des idées, ont des projets. Est-ce que toi tu as un regard sur justement comment ils construisent leur scénario? Est-ce que tu interviens dedans, ou est-ce que tu les laisses complètement libres dans ton travail éditorial?
Alors nous, en tant que maison d'édition, on publie des BD d'auteurs, donc c'est des auteurs qui ont quand même une vision artistique très très forte. Donc il ne s'agit pas d'intervenir, par exemple, je ne mets jamais un illustrateur en contact avec un scénariste, ça n'existe pas. Ouais. C'est des gens qui ont vraiment un projet. Il y a des fois où je suis assez peu interventionniste, dans la mesure où voilà, je reçois un résultat qui est déjà solide, et en fait, il y a juste des légères retouches à faire. Bien sûr, là tout à l'heure, je parlais d'une bonne rentrée, ça a été le premier livre de Mario Sula. Et forcément, en fait, quand c'est un premier bouquin, il y a des questions de rythme qui se posent. Il y a eu un truc très intéressant, en fait, c'est que Margot, quand elle a reçu le livre, elle m'a dit « Mais il manque deux pages. » Je fais « Comment ça, il manque deux pages ? J'ai utilisé tous les fichiers que tu m'avais envoyés. »« Ah oui, mais ceux-là, je ne te les ai pas envoyés. » Je fais « Bah, personne ne s'en est aperçu. » Donc c'est peut-être qu'en fait, là où tu peux emmener ton travail plus loin la prochaine fois, c'est sur la concision. Donc il y a des trucs où des fois il n'y a même pas besoin d'intervenir, là en l'occurrence ça a été une sorte d'autocensure, mais je lui ai aussi demandé de rajouter en fait du matériel. Par exemple, son livre en fait se tenait tout d'un bloc, et puis moi je trouvais que ça nécessitait des fois de faire des respirations, donc je lui avais proposé de mettre des pages blanches. Elle m'a dit « Ah non, mais en fait je veux pas de pages blanches, par contre je veux bien faire une illustration en milieu de page. » Je vais essayer de tenir le micro
en montrant. Donc, je voilà. Quelque chose.
Ouais. Ça, c'est super radiophonique, je vais montrer la BD. Mais voilà, du coup, elle a rajouté des illustrations comme ça qui tiennent sur une page. Et effectivement, c'est pas une planche de BD, mais ça permet aussi de couper différents segments et d'introduire en fait une nouvelle partie de la bande dessinée. Donc, dans un univers graphique qui est quand même assez chargé, comme vous pouvez le voir, quoi. Il y a quand même des pages blanches.
Et oui, je me demandais comment, parce que comme toutes les maisons d'édition, vous pouvez, j'imagine que vous recevez des tonnes de manuscrits, des tonnes de projets. La plupart des maisons d'édition reçoivent beaucoup plus de livres ou de BD que c'est possible d'en publier. Toutes les maisons d'édition. Et du coup, comment tu fais ton travail de tri? Est-ce que c'est des coups de cœur? Est-ce que c'est un propos qui te plaît? Est-ce que c'est un coup de crayon?
Alors, je commence par dire non. non, c'est que je reçois à peu près un projet par jour et j'en publie 10 maximum par an. Et là, en fait, on est en train de réduire même à 5 par an. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Après, nous, dans la ligne éditoriale, donc ça, c'est quand même un truc très important pour une maison d'édition, c'est d'avoir une ligne éditoriale. Elle est assez fluctuante, la nôtre. Néanmoins, en fait, on s'intéresse à tout ce qui est sciences humaines, donc que ce soit politique, histoire, philosophie, littérature. On a plusieurs adaptations littéraires au catalogue. Moi, je trouve que c'est important, en fait, de garder ce truc où il y a quand même quelque chose qui rattache la bande dessinée à ces sciences humaines, quoi. Par exemple, dans le bouquin de Margot, en fait, c'est un peu ce qu'on peut appeler gender studies. En tout cas, c'est un adolescent qui découvre son homosexualité. Et voilà, en fait, elle n'utilise pas un prisme moralisant ou quoi pour en parler. Non, c'est juste, voilà, ça se passe comme ça. Et on parle avec beaucoup de sensibilité. Dans Baladi, en fait, Baladi, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment, c'est un peu la clé de voûte, en fait, du catalogue. Mais quand il parle de la piraterie, donc déjà, en fait, ce livre, il est né parce qu'on avait des discussions sur la piraterie au XVIIIe siècle, notamment vu par des historiens comme Marcus Rediker ou Joachim Beck, qui voyaient les pirates comme des prolétaires de la mer. Donc, en fait, il y a un côté historique. Il y a une réflexion sur la liberté, parce que c'est un pirate emprisonné qui va raconter sa vie à un écrivain. Et donc, il va avoir le choix entre livrer un témoignage de l'homme libre qu'il a été ou accepter le deal de l'écrivain qui lui propose des remises de peine, des aménagements de peine en échange de son récit, mais du coup, en mentant, en brodant un peu sur l'homme libre qu'il a été. Donc, avoir des ersatz de liberté, quoi. Et donc, il y a vraiment ce côté philosophique et puis un côté très, très politique aussi, quoi. On l'a vu avec cette vision un peu historique du pirate, quoi. Donc moi, c'est plutôt des livres comme ça qui vont m'intéresser. Après, il y a un truc que je déteste au niveau du dessin, c'est les dessinateurs interchangeables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, dans la BD, il y a plus de 5000 BD qui sortent par an. Et il y a vraiment un problème de surproduction. Et en fait, on voit en fait, des auteurs qui... Des dessinateurs, en fait, on pourrait mettre quelqu'un d'autre à leur place, ça serait exactement pareil, il n'y a pas de caractère. Et moi, ce que j'aime, c'est quitte à ce que le dessin soit bizarre, et on le voit avec Margot, c'est quand même un dessin qui est très très atypique, mais quitte à ce que le dessin soit bizarre, en fait, qu'il y ait une vraie personnalité qui transcende le livre, quoi. Et ça, quand je reçois des projets où le dessin, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu 15 000 fois dans des trucs qui ne m'intéressaient pas, ben, ce n'est pas la 15 millième fois qui va m'intéresser, effectivement, quoi.
Oui, donc comme toutes les expressions artistiques, il faut sortir un peu son épingle du jeu.
Un gros caractère,
quelque chose à dire. Et ben, si déjà tu as ramené un de tes ouvrages, Armand, c'est ça?
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, de quoi ça parle et comment tu as travaillé ce bouquin-là?
Ça a été long, mais c'est marrant d'en parler. Alors déjà, enfin, c'est pas forcément un bouquin qui mettrait à disposition des adolescents, désolé. Armand, en fait, sur le travail du personnage dont on parlait un peu par rapport à l'atelier, mais il y a eu vraiment ce truc-là où tout au long de l'écriture, il y avait des phases où j'arrêtais parce que je devais m'occuper de la maison d'édition. Il y avait des phases où quand je reprenais, j'avais l'impression de retrouver des vieux copains, tellement que j'avais en fait travaillé les personnages. Notamment, il y a l'un des mafieux dans Armand, il s'appelle Francis Lariège. Et c'est vraiment un gros connard. Et en fait, ce trait de sa personnalité était tellement exacerbé que je prenais du plaisir à le retrouver et à le mettre dans des positions où soit en fait il exprimait ce truc viscéral et mauvais qu'il a en lui, soit en fait il se prenait un retour de bâton et c'était très drôle à chaque fois, quoi. Et en fait après, donc effectivement Armand, c'est une écriture qui s'étale sur 10 ans à peu près. Là je suis sur un projet, par exemple, j'ai entamé en 2009 et puis il y a eu une première mouture, il y a 140 pages, je les ai mises de côté. C'est un projet qui est très dur, en fait, donc qui a aussi un côté historique et politique, parce que ça parle de la conquête de l'Algérie par la France, donc les 20 premières années, où En ce moment, il y a beaucoup de questions de génocide par rapport à l'Algérie hein, comme question actuelle. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'on peut poser la question de savoir s'il n'y a pas eu un génocide en Algérie pendant ces années-là, parce que c'est quand même 2 fois 500 000 morts en 20 ans. Donc voilà, c'est quand même un projet assez dur. Ça venait aussi d'un fond personnel. Mon père, en fait, était militaire et il a été militaire pendant la guerre d'Algérie. Et bien sûr, c'est un truc dont il n'a jamais parlé. Donc moi, arrivé à mes 30 ans, en fait, j'ai eu envie de le questionner là-dessus. J'ai vu que je n'arriverais pas à faire une biographie de mon père, que ça n'avait pas vraiment d'intérêt, que j'avais intérêt à me détacher aussi du truc qui rapprochait à mon ego, et que j'avais envie de parler au plus grand nombre aussi, et puis de soulever des questions. C'est vrai que dans le récit national, on parle souvent de la guerre d'Algérie, qui est un événement traumatique et négatif, mais finalement, il y a une sorte de happy end, parce que l'Algérie prend son indépendance, mais en fait, on ne parle jamais de pourquoi la France, qu'est-ce que la France allait faire là-bas, quoi. Et moi, j'avais envie de mettre cette question sur la table. Donc, en fait, dans tous mes livres, que ce soit Capra Carnifex ou Armand, il y a aussi cette volonté de faire un peu le poil gratté, de donner à réfléchir. Armand, par exemple, c'est un jeune au début des années 2000 qui vit en banlieue parisienne, qui a un talent artistique, mais qui a pas les codes sociaux aussi pour faire carrière artistiquement. Donc il y a cette question-là qui est posée, et puis il y a la question d'avoir 20 ans en 2000, ce qui était mon cas, où voilà, moi j'ai une génération où j'ai l'impression qu'on nous a un peu coupé la parole, en tout cas quand on était jeune, il y avait encore un gros poids des anciens 68ards, on en parlait des utopies qui s'étaient arrêtées dans les années 80 et tout ça, et puis en fait nous on a grandi avec le sida, avec Le Pen au second tour, des trucs comme ça, quoi. Donc c'était quand même... Pas foufou. Et puis, quand j'étais ado, dans les années 90, il y a eu l'émergence du rap, enfin de la culture rap, hip-hop, qui, moi, était vraiment la bande-son de mon adolescence, qui n'était pas du tout reconnue pour ce qu'elle était. Moi, je trouve qu'il y avait des poètes d'expression populaire dans les années 90 de haut vol en France, et j'avais envie de parler de ça. Donc, en fait, sur Armand aussi, il y a eu tout un travail sur... c'est de la BD, donc c'est du langage parlé. Il y a eu tout un travail sur le registre de langage. Les flics ne vont pas parler comme les malfrats. Pourquoi ? Ils ne vont pas avoir le même langage, ils ne vont pas avoir les mêmes argots. Sur différentes générations aussi de bandits, quoi, en fait, ils ne vont pas avoir les mêmes argots. Des fois, ils n'arrivent pas à se comprendre entre eux, d'ailleurs. Et puis, l'argot, en fait, ça devient, petit à petit, ça devient un créole. C'est-à-dire que, par exemple, un auteur comme Albert Simonin, qui était un auteur du polar dans les années 60, si on relit maintenant, on comprend, à force de relire en fait, toujours les mêmes mots d'argot qui reviennent, ce que lui veut dire, mais en fait, c'est plus des mots qu'on utilise, quoi. Donc moi, jouer sur cette langue, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi dans le projet d'écriture, quoi. Voilà. Puis Capra, ça c'est... Capra Carnifex, en fait, ça parle de mon amour de la montagne en tant qu'enfant du Vercors, dont j'ai été séparé pendant des décennies pour aller vivre justement à Paris. Ben voilà, fallait bien que je fasse un truc pour me venger.
Ben, ce que tu dis, ça me donne envie de rebondir sur la question du langage et du coup sur le projet que vous avez mené là dans le collège, parce que le langage des Misérables, le langage du 19e siècle, c'est quand même pas le même qu'aujourd'hui. Et même encore dans la différence générationnelle avec vous qui êtes adolescent, adolescente. Et du coup, comment vous avez travaillé la question du langage autour de ce projet, ici, dans le collège ?
Je pense que ça, c'est peut-être la partie la plus difficile pour les élèves, parce que dans la mesure où c'est dans un cadre scolaire, sous l'égide notamment de leur professeur de français, il y a peut-être une autocensure des fois de se dire « Non, mon personnage, il ne peut pas parler comme ça. » Donc il y a eu des déblocages qui ont sauté petit à petit. En même temps, en fait, je pense qu'on a, en fait, on a une vision du langage du 19e siècle par des ados de 2024. Donc, je pense que c'est un truc unique. C'est peut-être un document, un témoignage un peu historique à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, moi, si on avait filé le même exercice dans les années 90, j'aurais pas généré les mêmes dialogues que ce qu'eux ont généré. Et puis, si parmi eux, il y en a qui prennent la relève et qui deviennent auteurs de BD et qui font des ateliers 20 ans, 30 ans plus tard, sur Les Misérables, ben, en fait, les élèves à qui ils donneront cet atelier s'exprimeront encore différemment. Quoi. Ça, moi, je trouve que la langue, quand on parle de langue vivante, là, ça prend tout son sens.
Et oui, justement, je me disais, est-ce que maintenant, là, l'exposition, elle est sous forme de planche, mais effectivement, peut-être c'est un document qui mériterait de circuler. Est-ce que tu prévois une publication? Ou est-ce qu'au collège, vous prévoyez une publication de ce travail-là? Et du coup, ça m'amène à la question que je voulais te poser sur la fabrication des livres, sur ben voilà, le choix des couvertures, les typographies, enfin, tout ce travail-là, en tant que maison d'édition, quoi.
Alors, déjà, là, tu viens de toucher un truc très sensible, c'est qu'il devait y avoir des fanzines qui arrivaient aujourd'hui et puis ils sont en retard. Petit souci de reprographe. Oui, il y a trois fanzines qui sortent de cet atelier, mais dans quelques jours, les élèves les recevront. C'était important aussi de donner une forme, alors pour plusieurs aspects, mais je trouve que c'est important d'avoir une trace, et pas que de ces planches à soie, mais des copains aussi, quoi. Je pense que les classes, elles avaient deux caractères très différents, que ce soit la 4e D ou la 4e E. Donc, je pense qu'en fait, on a aussi des témoignages de ces identités de groupe, quoi. Et puis, moi, j'ai vécu longtemps à Poitiers, où il y a la Fanzinothèque de Poitiers. J'ai été dans le CA de la Fanzinothèque. Et quand je fais un atelier où il y a un fanzine qui est généré, comme ça, il y a toujours un exemplaire qui part pour la Fanzinothèque, pour archive. Comme ça, on est sûr qu'il y a une trace qui reste conservée, on espère, pour le plus longtemps possible, quoi. Donc voilà, déjà moi j'ai fourni un vrai travail d'éditeur sur leur fanzine, parce que j'ai passé littéralement des heures, des jours, des nuits, parfois. Parce que ouais, j'ai eu deux fois où mon fils m'a fait « Papa, t'es fatigué aujourd'hui ?» Oui, j'ai nettoyé des plans jusqu'à 2h du mat hier. Je me suis vraiment appliqué à ce que les élèves puissent avoir leurs planches magnifiées, qu'on ne voit pas, les coups de gomme, les trucs comme ça. Donc ça, c'était vraiment important pour moi, que les objets soient beaux et que tout le monde puisse en être fier. Et après, quand tu parlais de la fabrication, bah, nous, en fait, 2002, on passe après la génération des éditeurs de BD des années 90 qui avait vraiment, vraiment révolutionné le paysage de la bande dessinée. Donc l'association Cornelius, Intrabile, les Requins Marteaux, voilà, il y a plein d'éditeurs comme ça qui avaient vraiment sorti la bande dessinée de la série classique type Tintin, pour résumer, quoi. Ils avaient déjà fait cette révolution-là, et nous, on n'avait pas révolutionné la BD pour révolutionner la BD. Donc en fait, le truc, c'est que ces éditeurs-là avaient des collections très très fortes dans leur catalogue. Il y avait encore le carcan de la collection, les BD doivent rentrer dans tel format, 17-24, tout ça, c'est des formats d'impression classiques, quoi. Et nous, on s'est dit, on va faire un catalogue sans collection. Et on va vraiment adapter chaque objet au plus proche, donner le meilleur écrin en fait, au projet proposé par l'auteur. Donc là, c'est vrai, quand tu vois, je crois qu'il n'y a pas deux formats similaires sur la table. La Baladie, par exemple, le Renégat, c'est une toile sérigraphiée, donc ce qui ressemble le plus à un drapeau pirate. Margot, juste un détail, hein, mais c'est que ce qu'on appelle un dos rond. Donc voilà, la plupart des bouquins, en fait, ils ont un dos carré, elle a un dos rond. Même le papier, en fait, il a un grain en fait, qui imite un peu la toile. Comme elle fait de la peinture, en fait, Margot, comme c'est des amas de peinture et tout ça, c'est demandé comment on pouvait être au plus proche de ses sensibilités picturales, quoi. Armand, en fait, il est né dans une revue qui était de format carré. J'ai toujours gardé le format carré, mais aussi parce que il y a un chapitre d'Armand qui est pas dans le bouquin, quand je parlais de mon travail de BD expérimental. C'est un chapitre qui est caché, et c'est des pochettes d'albums de rap des années 90 que j'ai adapté en fait pour raconter une histoire. Donc c'est vraiment format pochette de 33 tours, pochette de vinyle. Du coup, ça raconte Armand, il y a son meilleur ami qui est tué par erreur dans le bouquin, quoi. En fait, il y a un contrat sur la tête d'Armand et c'est son meilleur pote qui se prend la balle. Il faut retrouver le tueur à gage. Donc c'est la traque du tueur à gage qui est racontée donc, avec les pochettes de La Sole, MF Doom, IAM, et en fait je les ai customisées pour faire une sorte de BD qui ne peut pas être dans un bouquin. Quoi. Voilà. Donc à chaque fois, il y a vraiment une réflexion sur l'objet, sur la baladie. Là, il y a la petite table avec les bouquins de Zouchikuchi. En fait, il y a un drapeau avec le logo de Zouchikuchi. En fait, quand il a sorti Renégat, il a fait aussi une expo BD expérimentale où c'était 10 drapeaux pirates. Il a repris tous les codes des drapeaux pirates. Et c'est une histoire d'amour entre deux squelettes. Et en fait, il y a donc le temps qui les sépare et comment ils se retrouvent et comment l'amour a changé et tout ça. Et juste avec les codes du drapeau pirate, donc le sabre, le sablier, le cœur avec des ailes, les squelettes et tout. Voilà. Donc il y a toujours un travail comme ça, enfin la plupart du temps, dans la conception de livres. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais monter une expo de Amy Östergren, donc qui est une autrice suédoise avec qui on travaille. Et après, la semaine d'après, une autre expo d'Emily, donc à Nîmes la semaine prochaine, à Genève la semaine d'après. Et en parallèle, en fait, Margot, elle a deux expos à Genève, donc autour de son travail d'autrice de BD, autour de peintre, enfin de son travail de peintre. Donc en fait, on est toujours en train de penser à des expos et tout. Donc là aussi, en fait, ça, ce travail que j'ai fait aujourd'hui à accrocher les travaux des élèves, pour moi, ça fait vraiment partie d'une globalité de démarche artistique. Quoi.
Oui, donc la maison d'édition, ben, c'est ce que vous avez vécu, vous, en atelier, les élèves. C'est à la fois des livres, mais c'est pas que ça, c'est tout le travail derrière, comme tu disais, d'exposition, d'accompagnement des personnes, des projets, du travail administratif, mais ça... Ça, c'est sûr. Et du coup, oui, c'est ça. Je me demandais quelle était l'actualité là, de la maison d'édition. Donc là, il y a des expos. Est-ce qu'il y a d'autres bouquins à paraître sur le feu? Est-ce que... Puis aussi, je me demandais, dans le paysage de la BD indépendante, qui n'est pas hyper facile, enfin, comme tu le disais en introduction, que c'est un monde qui n'est pas facile. Et du coup, ben, voilà, est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce qu'il y a de l'entraide entre les petites maisons d'édition indépendantes? Et puis après, on va peut-être aller là-dessus. Mais après, moi, je me demandais si vous aussi, dans la salle, vous aviez des questions à poser à Gauthier.
Alors, la grosse actualité de Uchikuchi, c'est qu'on a une campagne de soutien jusqu'au 30 juin. Parce que, bah, en fait, pour la première fois de toute la maison d'édition, on a des dettes. Et que c'est. Enfin, là, il y a vraiment notre survie qui est en jeu. Je parlais du problème de la surproduction un peu rapidement tout à l'heure. Il y a un autre problème aussi, hein, c'est qu'on vit une époque politiquement très nauséabonde. Et les voix alternatives et humanistes comme les nôtres, c'est des positions qui sont très difficiles à tenir. Donc en fait, on a vraiment des difficultés en ce moment. Voilà. Donc j'espère qu'on va survivre à cette crise. Ça m'empêche pas de produire. Ben là, j'étais en train de sérigraphier un portfolio et on a deux livres qui sortent à la rentrée, donc d'un auteur qui a pas mal de bouteilles, Thomas Gosselin. Ça va être un truc comme son 30e livre, qui est un auteur avec qui je rêvais de travailler depuis des années. C'est un peu, il est un peu à la bande dessinée ce que James Joyce est à la littérature, donc une langue très recherchée, très complexe, mais en même temps ultra belle, d'une poésie et d'une vérité cinglante. Quoi. Et un jeune auteur japonais, Yasutoshi Kurokami, donc ça c'est son premier livre aussi, qui sort à la rentrée. Yasutoshi, en fait, il est venu en France quand il avait 18 ans, il a pris des petits boulots comme serveur pour payer ses études et apprendre le français. Et puis en fait, il a cherché un éditeur aussi bizarre que ce qu'il faisait, et du coup, il a toqué à nos portes et on s'est rencontrés comme ça. Et c'est un super chouette bouquin, parce que bah, du coup c'est un manga. Il y a une romance entre des adolescents qui soutient un peu tout le livre, mais c'est aussi une projection de ce que sera le Japon en 2050, donc avec le problème du vieillissement de la population. Et du coup le Japon, dans la projection de Yas, fait venir des étudiants étrangers. Il y a une romance entre un étudiant japonais et une étudiante indienne. Il y a des problèmes en fait, de xénophobie qui se posent. Et du coup, au milieu de tout ça, il y a de la bagarre entre des yakuza et des catcheurs. Et voilà. Donc il y a un côté très, très social et très, très foutraque en même temps. Et je trouve qu'on a un bouquin un peu pop, plus facile que la plupart de nos livres, en même temps qu'il y a une vraie raison d'être à notre catalogue aussi. Quoi. Et puis après, pour la suite, on attend de savoir. On est en sursis là. Voilà.
Oui, ben, je pense que c'est important qu'il y ait des projets comme cela et qu'il y ait aussi des maisons d'édition qui aient des choses à dire, comme tu le disais, dans une période particulièrement tendue et compliquée au niveau politique, qui nous agite tous à différents endroits. Mais justement, je trouve que la BD, ça peut être, comme plein d'autres médias artistiques, un moyen d'expression et un moyen de dire ben, dans quel monde on veut vivre, avec quelles valeurs on a envie de continuer. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Et peut-être avant qu'on clôture, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des questions à poser à Gauthier ou des réflexions? Ça peut être aussi, encore une fois, un témoignage des ateliers, mais aussi, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, le travail d'une maison d'édition comme celle-là et ce moyen d'expression-là? Et sinon, on peut aussi parler après de manière informelle, tranquillement, sans le micro, si ça vous gêne.
Moi, je me demandais simplement où trouver vos livres. Est-ce qu'ils sont dans les librairies, là?
Alors, on a un diffuseur. On a un diffuseur, donc on est censé être disponible dans toutes les librairies. Après, voilà, quand je parlais de la surproduction, c'est-à-dire que là, on a des... Je fais souvent le parallèle en fait, entre le monde de l'édition et l'agriculture. En fait, il y a des industriels qui font de l'agro-industrie, quoi, puis il y a des paysans. Donc, moi, je suis un paysan de l'édition. Je produis peu. Ma démarche, en fait, est plutôt... Enfin, je fais très attention aussi écologiquement à l'impact de mes livres. Et puis, il y a des industriels, en fait, qui surproduisent. Et en fait, c'est terrible aussi pour les auteurs. Parce que leurs bouquins arrivent en librairie, alors ils ont certes des implantations beaucoup plus vastes que ce que nous on peut avoir. Par contre, nous on soutient, quand je montrais Renégat, il est sorti en 2012, je défends encore Jamestown, ça on l'a publié en 2007, je le défends encore, enfin voilà. Et moi je connais des auteurs qui, chez des gros éditeurs, ont publié un bouquin, ont fait des dépressions, parce que 3 mois après... Tout le monde dans la maison d'édition se fout, enfin un peu chasse l'autre, et puis voilà. Donc en fait, si nos livres ne sont pas dans votre librairie de quartier, vous pouvez les demander à votre libraire parce qu'on est diffusé. Et donc voilà, enfin, il faut juste venir avec la référence. Donc on a des titres très faciles, comme j'ai oublié comment ça s'appelle. Ça, demander à un libraire, c'est très simple. Mais globalement, ouais, nos bouquins sont dispo, quoi. Et effectivement, c'est très rare qu'on soit mis en avant par les libraires. De plus en plus, c'est pas pour tacler les libraires, c'est que les libraires, en fait, ils font face à cette surproduction. Ils font ce qu'ils peuvent, ils n'ont plus le temps de lire les BD. Et effectivement, quand on a des trucs un peu pointus comme ça qui arrivent, puis on n'est pas les premiers à avoir de la presse aussi, quoi. Sur les grands masses médias, en fait, c'est pas de nos bouquins dont on va parler, quoi. Donc effectivement, c'est pas la première référence qui est ressortie. Mais on peut nous trouver, théoriquement et concrètement, des fois, on peut nous trouver en librairie aussi.
Merci Gauthier d'avoir donné tous ces éléments sur autant ton travail que l'animation des ateliers. Et je propose que, vu qu'il y a un buffet qui se met en place, peut-être on discute de manière informelle, sauf s'il y a encore des questions. Mais voilà, peut-être qu'on prenne le temps de clôturer ce moment-là et qu'on continue plus tranquillement autour d'un verre.
Merci.